Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 16 janvier 2003 et vous écoutez les éclairages numéro 4. Alors bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour un nouveau numéro des éclairages. Avec moi ce soir, 4 invités. Alors, ZQSD qui est là.
Salut.
Salut. Randall Fly qui est aussi là avec nous ce soir.
Hello, c'est moi.
Et donc, de nouveau ce soir, alors Musica qui est avec nous.
Oh, salut.
Et nous avons aussi Léopold qui est là.
Salut. Salut à tous.
Alors, quelques petites infos avant de commencer. Donc, la formule d'émission que je compte mettre en place, donc il y aura un éclaireur par mois, donc une émission d'1h30 consacrée donc aux dossiers divers et variés, et les éclairages, donc l'émission que vous écoutez en ce moment, qui consiste à un coup de cœur culturel par invité, sera d'une fréquence de 30 minutes toutes les deux semaines, donc et on mêlera invités récurrents et nouveaux invités comme ce soir. Et donc sinon, si vous avez un coup de cœur ou une envie de parler d'un sujet en particulier dans les éclaireurs, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou par le mail, les infos seront dans le billet du blog. Voilà, donc on peut attaquer l'émission avec le premier coup de cœur, celui de Randall Flagg.
Je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Seul, une série de BD. Alors c'est édité chez Dupuis, c'est un scénario d'un certain Fabien Vellam, qui a aussi fait réalisateur de Avez-vous déjà vu de Chabat, vous connaissez ça?
Ah oui, d'accord.
Il a réalisé certains épisodes, a priori. Il a aussi fait un scénario d'un Spirou et Fantasio. Le dessin est de Gazzotti, qui est vraiment qui est de l'école Spirou, hein, donc c'est un peu des dessins à la Spirou, on va dire. C'est un Belge, d'ailleurs. C'est pas de sa faute, hein. Et, il a travaillé aussi comme assistant sur le petit Spirou.
Ouais.
Et les couleurs, puisqu'on parle jamais des coloristes, enfin là pour le coup c'est pas le point fort du truc, mais sont de Cerise. Alors il y a 7
Cerise pour la couleur, d'accord.
Cerise, voilà, qui travaille aussi dans les assurances.
De Groupama,
voilà.
Par contre ça fait pas beaucoup de couleurs quoi, s'il y a que Cerise.
Ouais, ça fait un peu rougeâtre. Bah d'ailleurs c'est un peu rougeâtre, vous allez voir, ça tombe bien. Alors il y a 7 tomes parus jusqu'à présent, c'est toujours pas fini. Alors je vous pitch un peu, c'est l'histoire de gamins, j'ai entre 4 et 7 ans environ, qui vivent leur vie tranquille dans une petite ville. Il y en a, vous avez un peu tous les genres de gamins, il y en a une, c'est une première de la classe, il y en a un, c'est, on va dire, un type qui aime bien faire des expériences, un futur nerd, on va dire.
Très cliché, quoi.
Voilà, un petit peu, et un petit gosse qui pense qu'à jouer parce qu'il doit avoir 3-4 ans. Une gamine qui est un peu la MacGyver du groupe, qui bricole pas mal de choses. Et un orphelin qui a été élevé à la dure, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors tout se passe bien pour eux, sauf ce matin-là. Ce matin-là, ils se réveillent et toutes les rues sont vides. Les adultes ont complètement disparu.
Par contre, les rues sont pleines chez toi.
Ouais, les rues sont pleines chez moi. Ils viennent me chercher. Désolé, mais c'est tous ces gens qui sauvent des vies en mettant du bruitage, c'est inadmissible. Donc, c'est une honte, ouais. Donc tous les adultes ont disparu, il n'y a plus rien qui bouge. La ville est complètement déserte, ils se baladent tous les cinq un peu hagards et finissent par se rencontrer. L'histoire c'est qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tout s'est embrouillé parce qu'ils s'en souviennent même plus vraiment de à quel moment tout a disparu. Alors ce qui est marrant c'est le BD, quand on voit la couve ou quand on lit un peu les BD, vu le look, vu que c'est vraiment un look à la Spirou comme je disais, c'est-à-dire dessin un peu...
Un peu gentillé. Hein.
Un peu gentil, machin, tout ça. Et même jusqu'à lire le premier tome, on se dit c'est une BD pour vraiment les gosses. Puis ça parle de gosses en plus. Et moi je l'avais lu parce que je l'avais récupéré d'un gamin, justement.
Tu pilles les gamins.
Je l'avais volé à un enfant.
Et sa sucette aussi.
Et ça va être. Et après je l'avais tapé.
Et la poussette.
Et l'enfant est encore vivant.
J'aime pas. Je peux pas en parler.
D'accord.
Non, t'as piqué le gosse, c'est ça.
Voilà. Et donc, en fait, en lisant la BD, surtout à partir du deuxième tome, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si gamin que ça, et que c'est plutôt... il faut être adolescent quand même, au moins, parce que ça saigne un peu, d'où la cerise rouge. Et puis, il se passe des trucs un peu étranges. En fait, le scénario s'assombrit et s'épaissit au fur et à mesure de la BD, et ça devient un scénario un peu à la Lost. D'ailleurs, il y a
j'allais le dire, je voulais le sortir, le Lost.
Voilà, il y a des énormes clins d'œil à Lost. Je peux pas trop vous spoiler, mais il y a des événements où c'est exactement C'est volontairement un clin d'œil à Lost, et on reconnaît aussi des influences d'autres séries fantastiques. Donc petit à petit, les choses se mettent en place, on va finir par comprendre certaines pistes pour comprendre comment les gens ont disparu. Ils retrouvent petit à petit la mémoire, ça continue à s'étaler sur plusieurs tomes. Ce qui est assez sympa, c'est que les décors sont assez fouillés. D'ailleurs, le Gazzotti, le dessinateur, s'amuse à modéliser en 3D certains éléments des décors avant de les décalquer. Par exemple, il y a un moment, ils sont dans un bus et le bus est super chouette. Et en fait, c'est voilà, la technique pour arriver à faire le bus dans n'importe quelle position, c'est ça. Il s'est amusé à faire beaucoup de modélisation de ce truc. Du coup, il y a un petit côté sympa sur l'architecture et tout ça. Alors c'est pas une tuerie graphique non plus, hein, c'est pas non plus...
C'est ça qui m'a dérangé, c'est que c'est très gamin.
Au look, c'est très gamin, ouais, on est loin de la richesse d'un Black Sad ou d'un truc comme ça. Mais...
Ouais, mais justement, je trouve que le fait que ce soit des dessins assez jeunes, ce choc du fait qu'il y ait une histoire assez dure, vraiment forte, c'est super, moi je trouve que ça fait un beau mélange, ouais. Et c'est une bonne... Enfin, pour les enfants, je pense que c'est un bon début pour aller après vers des BD plus adultes.
Ouais, en fait, ouais, je suis assez d'accord, parce que justement, c'est presque une transition vers de la BD adulte, c'est vrai. À part que, bon, il y a certains passages qui restent un peu gamins, donc après, t'es un petit peu le cul entre deux chaises. Il y a quelques moments où il s'égare trop dans le côté gamin. Il y a quelques tomes, comme ça.
C'est comme pour les films d'animation, tu sais, c'est un peu ça, quoi. Des fois, t'as les trucs sérieux pour adultes, et après, si tu passes pour les enfants, ce qu'il faut vendre aussi aux enfants, quoi.
Ouais, il y a un côté double lecture, c'est vrai, sur les... Ouais.
Puis du coup, en plus, cette BD-là, d'abord, elle était passée chez Spirou, le magazine
ouais,
Spirou,
les,
quoi.
Ouais, ouais, elle est encore publiée chez Spirou, d'ailleurs, je crois.
Voilà. Donc, il fallait aussi adapter, quoi. Moi, j'ai adoré cette BD.
Ouais, moi, je suis tombé sur le tome 1, j'ai été intrigué, puis je me suis fait les autres dans la foulée.
Ouais, puis il y a le truc de l'être humain, en fait, compte, qui est pourri. Tu vois, en fait, compte que l'être humain est pourri, même chez les enfants.
Ouais, quoi. C'est ça, voilà. Il y a un côté, justement, Walking Dead ou toutes ces séries comme
ouais.
ça, où finalement...
Ça fait penser à donc le bouquin, c'est Sa Majesté les Mouches.
Oui, ça a beaucoup inspiré de ça.
Ça m'a fait penser à
Sa Majesté les Mouches.
Ouais, donc l'histoire, c'était un groupe de gamins qui se retrouvent sur une île et il y a deux camps qui se forment.
Et ils se retrouvent, c'est que des gamins qui se retrouvent sur une île, ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'inspiration de ça, ouais. Avec le côté fantastique en plus, ouais. Tout ce qui se passe.
Puis voilà, c'est des gamins qui jouent avec des jouets d'adultes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Enfin, vraiment, c'est impeccable.
Ouais, puis les personnages gagnent en profondeur parce qu'on apprend petit à petit ce qui leur est arrivé et on s'aperçoit que c'était pas forcément pour. Enfin, c'est pas très rigolo.
Non.
Ouais, le seul truc que je reprocherais à la BD, c'est que du coup, j'imagine certains parents qui vont acheter ça pour leur petit gamin de 7 ans. Et ce sera peut-être un tout petit peu limite. C'est pas non plus Walking Dead, hein, faut pas rigoler, mais c'est quand même un peu limite. Donc c'est vraiment sympa à lire. Ça, je vous conseille chez Dupuis. Ça coûte 10 euros par tome. Il y a même une intégrale des 5 premiers tomes qui vient de sortir, qui est à 33 euros, ou qui va sortir, je ne l'ai pas encore vu dans les magasins.
Parce que
les 5 premiers tomes à 33 euros. Ouais.
Il est prévu d'y avoir 4 cycles en fait, dans la BD, donc 4 cycles de 5 BD. Donc je crois que c'était ça en fait.
En tout cas, moi j'ai lu le 5 et le 6 à la suite et j'ai pas vu de coupure vraiment entre le cycle comme il est censé le faire. J'ai pas ressenti ça.
Il y a la marge.
Oui, je sais. Ouais, ça... D'ailleurs, il y a quelques. Fillers, parce qu'on est sur les séries.
Ouais.
Il y a un petit côté, il y a un ou deux, il y a un tome en particulier où t'as l'impression qu'il a essayé de faire une histoire sur un tome.
Rallonger un peu la série, quoi. Mais pour le coup, ça s'adresse à des gamins, mais c'est pas trop dur quand même. Est-ce que, aussi, par exemple, dans la compréhension, c'est un peu comme Lost, est-ce qu'à chaque épisode, t'as toujours 36 nouveaux mystères qui apparaissent?
C'est un peu le défaut du truc. J'ai peur que ça fasse comme Lost. C'est-à-dire qu'ils finissent par en ouvrir trop. Parce que jusqu'au 3 ou 4e tome, ça suit une certaine logique, avec certaines explications, mais pas tout. Et là, ils commencent un tout petit peu à s'embrouiller dans les histoires, il va falloir vraiment qu'ils fassent attention.
Ouais, ils essaient de faire... avancer la mythologie en fait du truc et bon on a un peu peur quoi,
voilà, mais... comme dans toutes les séries en fait.
Ouais, c'est ça,
la peur qu'il ait pas tout écrit dès le départ quoi. Enfin voilà.
Écoute, moi je pense que j'essaie de lire le 1 s'il est pas trop, enfin, à mon avis il est quand même facile d'accès le 1, j'imagine.
Ah oui, mais justement le 1
pas trop long, pas
ah non
trop
c'est
bon
très court cool, c'est des BD quand même à la Spirou, donc tu vois c'est des BD assez courtes et... il faut au moins en lire deux je pense, parce que le premier est plus dans le ton gamin et c'est dans le deuxième où ça commence à se noircir un petit peu, enfin je trouve.
Bah très bien.
Voilà.
Moi je pense que je vais lire ça.
Je pourrais le faire aussi. Je pense le
ouais,
faire.
Je vous le conseille.
Très bien. Donc tu nous rappelles, donc c'est Seul.
Seul.
Donc aux éditions.
Aux éditions Dupuis.
D'accord, merci. On attaque la suite.
Vous êtes prêts? Ok.
Et donc okay. Ça va être à ton tour, Léopold. Jingle.
Yeah. C'est le chronique de...
Alors, Léo,
alors, du coup, je vais vous parler de la fabuleuse série Suits. Alors, excusez-moi pour mon anglais qui est catastrophique,
non,
mais voilà.
Non, mais t'es tout excusé.
Suits. Alors, bon, pour le résumé, j'ai voulu faire compréhensible, donc j'ai pris le résumé de Allociné. Hein. Donc, c'est ça. Alors, avocat très ambitieux d'une grosse firme de Manhattan, Harvey Specter a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Son choix se porte sur Mike Ross. Un jeune homme très brillant, mais sans diplôme, doté d'un talent certain et d'une mémoire photographique très précieuse, très utile. Hein, je me prie. Ensemble, ils forment une équipe gagnante, prête à relever tous les défis. Mac devra cependant user de toutes les ruses hein, pour maintenir sa place dans cette firme et découvrir d'autres affaires qu'il va juger. Donc ça, c'est une série qui passe sur USA Network, qui est une super chaîne où il passe le fabuleux Psych.
Ah, Psych, je suis un gros fan de Psych, j'adore.
Voilà, moi aussi. Alors, du coup, en plus, ça veut dire que si t'aimes Psych, tu vas aimer cette série, c'est obligé.
Ah, elle est moins dans l'humour, quand même.
Elle est moins dans l'humour, mais c'est plus fin.
Ouais,
c'est moins grossier que Psych.
Mais déjà, on retrouve le côté mémoire photographique.
Enfin, une remarque, ouais.
Tu retrouves surtout le duo.
Ouais, c'est ça, le duo d'acteurs qui marche bien.
Mais USA Network, ils sont habitués avec ça, hein. Ils en font plein des séries à duo. Voilà quoi. Donc je finis sur le créateur, c'est Aaron Korch. Hein. Il a travaillé sur Tout le monde aime Raymond.
Ouais.
Voilà, tu vois, bon, moi j'aime pas trop Tout le monde aime Raymond, mais bref. Et donc voilà, c'est une série que je la conseille à tout le monde. J'ai découvert il y a 5 jours, c'est Delphine Rivet qui m'a montré ça, la journaliste. Et c'est une série qui est vraiment drôle, mais drôle, vraiment ça fait du bien parce que c'est intelligent. C'est de la finesse, c'est les acteurs, un casting parfait.
Ah oui.
Alors il y a le Harvey Specter qui joue l'avocat un peu classe qui gagne tous ses jugements. C'est joué par Gabriel Match. Ce mec c'est entre George Clooney et Adrien Pastard de
Heroes. J'ai vu comme ça mais ouais.
Mysterious Way. C'est Adrien Pastard, c'est ça.
C'est celui qui jouait dans Profit.
Ah oui, c'est celui qui jouait dans Heroes qui jouait Petrelli.
Aussi, oui.
Voilà. Et du coup, vraiment, ce mec-là, il a l'intelligence, il est pas hautain. C'est pas un héros désagréable. Enfin, voilà, c'est vraiment intéressant. Et c'est quelqu'un qui se la pète, mais classe, quoi, tu vois. Et ça, c'est comme George Clooney. J'ai envie de dire. Ma mère dit que je ressemble souvent à George Clooney, c'est pour ça que je fais une fixation dessus.
Oui. Et mais sans l'image un peu. Ouais.
Voilà. Et donc le jeune Mike Ross, donc il est joué par Patrick G. Adams. T'as envie d'être pote avec lui. T'as envie que ça soit ton meilleur ami, t'es vraiment le mec sympa, intelligent, qui se prend pas la tête, et voilà. Et donc ça raconte, en fait c'est plus son histoire à lui, au début, parce que c'est un mec donc qui est très intelligent, il a une mémoire photographique, donc si tu veux il peut lire un bouquin, il te lit toutes les pages, donc autant te dire qu'il utilise vachement dans la série. Et donc il essaye avant il trafiquait dans la drogue, il passait des concours à la place d'autres personnes parce qu'il était bon quoi. Et un jour voilà par hasard il a rencontré ce mec Harvey Specter et du coup ça a changé sa vie, il est rentré à la firme quoi.
Je sais pas si tu l'as dit mais il a pas son diplôme d'avocat surtout.
Non, mais il a le barreau par contre.
Ouais bah, mais ça dépend de qui est face de lui.
Donc il y a de l'humour dans la finesse, mais ce qui est intéressant vraiment aussi, c'est qu'il passe un peu on voit un peu les dessous du métier d'avocat. C'est toi l'avocat, c'est pas juste libérer des méchants de prison quoi. Là-dedans, c'est vraiment l'avocat, c'est tu passes par le côté travailler avec les entreprises, créer les fusions, acquisitions, voilà. Enfin, tu vois, des choses vraiment comme ça. Et à chaque fois, ils arrivent à montrer, à expliquer simplement, parce que c'est compliqué. Des fois, ils vont très loin. Et moi je trouve ça très clair. Et ce qui est sympa, c'est vraiment ça sort du côté ah il y a un méchant, il a tué quelqu'un, on va le sauver, tu vois. Enfin voilà. Et il y a ces fameux dans la série, ils appellent ça les pro bono. Ça c'est leur caution pour dire voilà on va aider les pauvres. Donc en fait ils envoient les avocats riches sauver les pauvres. Et ça rapporte un peu de c'est sympa.
C'est pour rapporter un peu de notoriété.
Voilà, c'est ça, notoriété. Non, non, voilà, moi je la conseille cette série parce qu'elle est vraiment. L'esthétisme est super, la BO.
Ouais, la BO, t'es... Et il y a des vrais réalisateurs derrière, des fois, t'as l'impression, surtout dans les premiers. Ouais. J'ai bien aimé.
Ah, mais c'est clair. Et puis voilà, c'est une série qui doit pas coûter bien cher à produire. parce que c'est tous dans les mêmes dans les bureaux, tout ça. Des bons acteurs, à chaque fois, tu vois souvent des bons second rôles. C'est ça que j'aime bien avec les séries américaines, c'est pour ça aussi que certaines, enfin, les Américains sont meilleurs pour les séries, c'est qu'ils font des super second rôles, quoi. Je veux dire, le méchant. Enfin, le méchant. C'est pas vraiment un méchant,
oui.
Luis.
Ah oui, il est terrible, cet acteur, en plus.
Il est génial, tête, tout le monde l'a déjà vu quelque part.
Il y a une tête, c'est celle que t'as envie de claquer dans toutes les séries. Donc.
C'est ça, c'est ça. Et il joue vraiment un salaud, mais c'est pas genre salaud à chaque fois. Je pense que cette série, c'est ça qui est bien, c'est que le salaud, au début, il gagne, mais des fois, il gagne même jusqu'à la fin, quoi. Il n'y a pas, voilà, il y a pas à chaque fois, il gagne, après, il perd. Et ouais, tout le monde est gentil, ouais, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, voilà, je la conseille à tout le monde.
Et pour le
qu'est-ce que t'en penses ?
Pour le coup, les épisodes se suivent ou c'est une histoire par épisode ou il y a quand même un fil rouge consistant
Voilà. Le fil rouge en fait, c'est que c'est le jeune Mike Ross doit pas se faire griller par la firme, comme quoi il a pas son diplôme. En plus, il a fait croire qu'il était à Harvard, tout ça, et donc c'est un peu ça le fil rouge. Et en fonction de ses aventures palpitantes, il rencontre des gens qui font que il l'aide à cacher son ancienne identité. Quoi. Alors bien sûr, il tombe amoureux d'une fille et en même temps, il est amoureux d'une autre fille qui est l'ex de son meilleur ami. Enfin,
les grands classiques, mais ça marche bien.
Voilà, du grand classique. Mais voilà, c'est de l'humour fin. Et c'est une série qui passe pas en France. Je comprends pas.
Il y en a qu'une pour l'instant, non ?
Alors, non, ils sont en train de finir la deuxième, là. Et ils ont signé pour une troisième.
Ouais. Oh, c'est tout, je croyais que c'était beaucoup plus vieux, moi.
Non. Excuse-moi, tu sais, je suis peut-être vieux, mais
des fois, il fait une série de
c'est pas Mike Hammer, quoi.
Mais il y a un petit côté, maintenant que j'y repense, Boston Legal en moins farfelu, quoi. C'est vrai. Il y a ce petit côté. Ouais, ouais.
Et les épisodes durent 45 minutes ou 20 ?
Non, 50.
45. 50 et
40. Je crois qu'ils sont un peu plus que 45, mais je ne sais
pas. Ok.
Je crois que c'est 52 parce que c'est.
52 ?
Je crois qu'ils sont à 52, je crois.
Ok.
Et non, voilà, c'est. Et puis, enfin, voilà, ça change. Ça change du. De les séries d'avocats, tu vois, qui. C'est toujours, ouais, on va sauver les pauvres.
Très procédural là.
Ouais, voilà. En fait, là, c'est. Même si le mec il est riche, on est là pour
42 minutes.
Mec, on s'en veut. 42 okay. minutes, tu vois, t'as raison.
Bon, 42 voilà. Toujours.
Est-ce que. Moi, ce que j'adore dans ce genre de série, c'est le côté enquête. Enfin, je suppose que comme le gars il a une mémoire photographique, il y a un petit côté enquête.
Ah bah ouais.
Est-ce que le côté enquête. Moi, j'adore Psych aussi. On retrouve du Psych
enfin,
dedans.
C'est pas enquête, c'est plus procès, ouais. Mais il y a.
Parce que vu qu'il y a une mémoire photographique.
C'est plus procès que des enquêtes, ouais. Même s'il a un minimum d'enquête. Ouais. Mais la mémoire photographique lui sert surtout à encaisser des millions de dossiers de 3 mètres de haut en quelques heures.
Voilà. En fait, ils lui disent rentre dans cette salle, il y a je sais pas combien de bouquins, tu dois toutes les apprendre par cœur et tu trouves une faille dedans, quoi. En fait, c'est plus ça son enquête, hein, le mec.
D'accord. Mais
il faut pas réduire
par contre, même toute la partie procès est vachement intéressante. C'est pour ça que je pensais à Boston Legal où il y a le côté farfelu, mais en plus le côté procès qui est bien foutu.
Comment il s'appelle l'avocat dans Boston Legal là ? Qui est joué dans The Office
Steve Carell.
Non, Steve Carell joue pas.
Non.
La Boston Legal, c'est là où il y avait le capitaine Kirk, si j'ose dire.
William Shatner.
Oui, c'est ça.
William Shatner. Voilà.
Ouais, c'est ça, non, c'est lui, il y a bien lui. Ouais. Mais il a pris 20 kilos depuis Boston Legal. Hein.
Encore
William Shatner, il prend 20 kilos entre toutes les séries, donc.
Ouais.
Non, mais c'est pas William Shatner, c'est. Je vais vous le trouver, le mec.
Ah, c'est l'autre de Stargate, le film.
Oui. Ouais, c'est
oui,
ça.
Oui, en effet, lui, c'est ça. Il prend 20 kilos par série. Il doit manger, il doit manger à chaque fois son cachet.
Ah ouais, non, c'est.
On est méchant.
C'est ça qui est
non,
beau.
Tu es méchant.
Ah, tout de suite.
Alors, donc, ce sera bon pour Suits. Donc, on rappelle, 2 saisons pour l'instant, 3e arrive. On va passer à la suite. Ouais. ZQSD, tu te sens prêt pour ton sujet ? Jingle.
Alors, moi, je vais vous parler d'une autobiographie. Oui, d'un groupe de rock qui s'appelle Motley Crue.
Je pense que certains vont connaître, ceux qui veulent connaître ou qui connaissent déjà.
Ah bah ouais, vas-y.
Alors celle-là, vas-y. Tu vas me dire laquelle c'est après. Et donc ça, c'était...
Home Sweet Home.
Et donc je lance la deuxième dans la foulée. Hein. C'est la plus connue.
Allons-y. Voilà. Bah, comme vous l'avez entendu, c'est un groupe de glam, air metal, hard rock, heavy, un peu tout ça des années 80. Voilà, paillettes, talons, ouais, les hauts roses, les cheveux en pétard, donc tout ça. Et ce qui m'a en fait amené à lire la biographie, c'est pas forcément que je suis fan du groupe parce que j'aime bien, mais voilà, bon, je les ai quand même vus deux fois en concert, mais je les aime bien, sans plus on va dire. C'est qu'il y a une petite citation derrière le bouquin. Donc le bouquin s'appelle The Dirt, donc c'est une autobiographie donc, co-écrite avec Neil Strauss. Et donc derrière c'est écrit « The Dirt renvoie toutes les autres biographies dans la catégorie de littérature pour nonnes ». Donc ça m'a quand même intéressé, parce que je me suis quand même dit qu'il y avait peut-être un intérêt à lire ce bouquin autre que pour le groupe, et il y en a eu.
Il y a des gens morts dans leur vomi.
Non, il y a Ozzy Osbourne qui lèche sa pisse, mais bon.
Et c'est déjà ça.
Et qui confond des fourmis et la coke. Enfin, c'est... Donc voilà, et pour introduire un peu plus le groupe et le bouquin, donc j'ai une citation de cette magnifique encyclopédie qui est Wikipédia. Donc composé du bassiste...
Connais pas.
Composé du bassiste Nicky Six...
Allociné seulement.
C'est ça. Donc composé du bassiste Nicky Six, du batteur Tommy Lee, ouais, qui est sorti avec Pamela Anderson d'ailleurs, du guitariste Mike Mars et du chanteur Vince Neil, les membres du groupe se sont souvent fait remarquer pour leur mode de vie extrême. Ils ont tous connu de nombreux problèmes avec la justice, ont souffert de longues addictions à l'alcool et aux drogues, et ont eu d'innombrables aventures avec des femmes et sont lourdement tatoués. Donc je trouve que ça introduit bien le livre, parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve génial, c'est que chaque chapitre, c'est un des membres du groupe qui raconte, et parfois dans deux chapitres, on a la même histoire racontée différemment. Donc on se rend compte qu'ils font des choses un peu... ils exagèrent, on va dire, beaucoup, sur certains passages. Donc je donnerai des petits exemples à la fin. Donc voilà, on voit clairement que c'est exagéré, mais on voit vraiment le monde des années 80, le Los Angeles, vraiment de la rue, avec leurs problèmes à l'école, leurs problèmes dans la rue, avec la drogue, les putes, les poneys, tout ça.
Ah, enfin
les poneys.
Et voilà, et donc je pense que la définition de ce bouquin, c'est sex, drugs and rock and roll. Je crois que
et
c'est poney. Vraiment tout dedans.
Et poneys.
Et poneys. Non, mais vraiment, c'est tout est poussé à l'extrême. Donc au début, ça donne envie parce qu'on se dit « Ah, c'est génial, ils vivent leur vie, ils sont libres et de ça. » Mais en fait, on voit que tout part vraiment en couille. C'est vraiment horrible. Ils ont des problèmes pour tout. Dès qu'ils font quelque chose, c'est un problème. Ils vont au restaurant, il y a un problème. Donc voilà.
Voilà.
Voilà. Ils sont habillés en femmes dans la rue, ils se font frapper, donc tout ça. Donc on apprend pas mal de leurs influences, de pourquoi ils sont devenus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur jeunesse, notamment. Oui, parce qu'ils se sont fait frapper dans leur jeunesse, bizarrement. Ce qui a amené à qu'ils se mettent des talons hauts. Par les méchants à l'école. Les méchants à l'école scolaire. Donc voilà. Donc, voilà et... Donc, par exemple, le tout premier chapitre, ils racontent qu'ils ont eu une baraque pendant 9 mois et qu'ils n'ont jamais rien lavé, qu'il y avait de la drogue partout, de l'alcool partout, qu'ils ont été virés par les autorités sanitaires, enfin... C'est que des trucs comme ça et enfin
The real life of rockstar.
Oui, c'est un peu ça quoi.
Ah bah, la rockstar ne lave jamais ses caleçons, hein, c'est connu.
D'accord.
Ah bah là c'est un peu ça. Non mais en plus c'est assez cru au niveau des paroles, ça parle de foutre à peu près toutes les 3 pages.
Ah, c'est bien.
Non, c'est vraiment marrant je trouve de voir un peu comment ils vivaient.
Tu lis et en plein milieu d'une page t'as marqué foutre comme ça.
Oui, un peu bah d'accord. Je pourrais chercher un extrait.
Ça fait le marqueur dans le bouquin.
Non, parce que le bouquin, donc j'ai pas dit, c'est édition camion blanc, donc c'est 36 euros le livre.
Ah ouais, d'accord. Donc,
j'y fais très attention.
Je l'ai devant moi, 500, 600.
Quand même.
À peu près. Ça va. Enfin bon, 36 euros.
600 pages de foutre là.
À peu près, ouais. Non, mais c'est vraiment marrant de voir. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir la vérité sur les groupes qui montent, en fait, parce que c'est vraiment que de la chance. Et même eux le disent, et pourtant, ils se la pètent beaucoup dans le bouquin, mais même eux disent que c'est que des petits coups de chance par-ci, par-là. Donc voilà, moi qui fais de la musique, ça m'a vachement intéressé.
Ah, c'est comme Black Sabbath, hein, qui vivait par coups de chance.
Ils sont arrivés au bon moment.
Moi, je suis pas fan du glam rock, j'aimais assez certains trucs.
Moi, personnellement, je trouve ça plus heavy que glam, vraiment, parfois. Il y a vraiment ce côté sympa, des bonnes guitares. Donc voilà, en conclusion, parce que j'ai mes notes quand même à reprendre, ça montre vraiment aussi la différence qu'il y a entre les États-Unis des années 80 et la France de maintenant. C'est vraiment rien à voir. Les gens, ils pensaient pas pareil, ils faisaient pas les mêmes choses, ils avaient pas les mêmes centres d'intérêt, et quand ils voulaient bosser, ils allaient au disquaire du coin et ils bossaient pendant 3 mois avant de se faire virer. C'est à peu près ça.
Oui, c'était possible à l'époque, oui.
Oui, voilà, c'est un peu ça. Par exemple, les concerts dans les clubs où les gens ils viennent sans même savoir quel groupe va jouer, ils viennent juste parce que le club fait une bonne programmation et les gens ils viennent et il y a 300 personnes tous les soirs, quoi. Et ça, c'est, je pense pas que ça ait vraiment existé en France. Enfin, j'ai demandé un peu à mes parents et tout ça, ils m'ont jamais donné un nom comme ça.
Si, tu sais, à l'époque où le bus Palladium avant tout ça, c'était des trucs un peu connus. Téléphone, c'était un peu.
Ouais, téléphone, c'était un peu comme
c'était
ça.
Un peu comme ça.
Dans leur début,
mais
c'était un
est-ce
peu
que c'est les gens qui venaient pour le groupe ou qui venaient pour la salle?
Il y avait des salles, c'était un peu plus tôt peut-être, mais il y a des trucs comme, comment ça s'appelait, les boîtes parisiennes qui faisaient justement un peu ça aussi, il y avait quand même des salles comme ça.
Après c'est sûr que
oui,
c'est
voilà,
aux États-Unis c'est toujours plus.
Voilà, et le bouquin était un best-seller, parce qu'il y a des gens qui achètent ça normalement, et il y a un film qui est censé sortir cette année apparemment selon la page Wikipédia. Donc j'ai hâte de voir ça.
Mais il est pas sorti déjà, c'est pas le truc avec Tom Cruise là ou... C'est où il y a des...
Non, c'est là, il faisait une parodie dans un film, une parodie de Rockstar.
Non, c'est pas ça,
après,
c'est pas du tout
pas...
ça. Bah, en tout cas, page Wikipédia, troisième ligne, ils disent... Elle est censée sortir en 2013, donc bon, je pense que ça aurait été mis à jour par les fous furieux qui mettent à jour à la seconde près.
Qui ont que ça à faire.
Exactement, qu'on m'a dit. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Le bouquin aux éditions Camion Blanc qui s'appelle The Dirt, Motley Crue et Neil Strauss. Donc
parfait,
voilà, même
parfait.
Si vous aimez pas forcément le groupe, je pense que ça vaut le coup de voir un petit peu comment se passait la vie, comment certains groupes sont tarés.
Du coup, moi je connais pas énormément de l'écrou, mais si tu devais conseiller un album, ce serait lequel pour débuter mode l'écrou?
Un album en particulier, j'aurais peut-être le premier, on va dire. Okay. Bon. Mais moi personnellement, même si je déteste ça, ça serait un best-of.
Ah bah
parce
oui,
que forcément. Je trouve que mode l'écrou a beaucoup évolué en fait à chaque album. Et par exemple, Too Fast for Love et Shout at the Devil, les deux premiers, ils étaient vachement différents des autres. Après, ils ont commencé à être beaucoup plus commercial, beaucoup plus soft. Ça s'entend dans leur son et tout ça. Mais je pourrais te conseiller des chansons plutôt. Genre Girls, ouais. Girls, Girls, qui est incroyable. Il y a Wild Side, qui est juste folle. C'est plus, je pense, des gros titres qu'ils ont eu. Ils ont un peu ce défaut, c'est que dans leur album, la dernière fois, j'ai réécouté encore le premier, il y a des excellentes chansons. Too Young to Fall in Love, elle est folle, mais par contre, il y a vraiment des chansons qui sont moins intéressantes et moins développées, je trouve. C'est mon avis.
Voilà. D'accord. Donc, un best-of. Ouais.
T'avais dit qu'il y avait Tommy,
ouais.
C'est ça, dans le batteur? Ah bah déjà, ça me donne pas envie.
C'est le batteur du groupe et c'est aussi le batteur de Pamela.
Exactement.
Ouais.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, il parle de beaucoup de personnes et on voit qu'à l'époque, tout le monde se rencontrait. C'est très déprimant. Genre, ils ont leur première grosse tournée, c'était avec Ozzy Osbourne quand même.
Mm.
Donc voilà, quand ils racontent les anecdotes de tournée avec Ozzy ou les anecdotes de tournée avec tous les autres groupes, c'est très déprimant. Quand on rêve de faire de la musique, c'est très déprimant.
Ah oui.
J'ai du mal. Donc voilà.
Si tu veux, on peut faire une tournée des bars, la place.
Ah bah pas de soucis. Sur Paris, y'a pas de soucis quand tu
veux. Bon, on va passer à la suite. Musica, ça va être à toi. Déstress, après le jingle, c'est pour toi. Vas-y.
Bon, bah alors, que je retrouve mes notes, voilà. Alors, pour apprendre, je vais vous parler d'une série qui est dans l'actualité en ce moment, c'est la série française HeroCorp. Alors, je vais
c'est
demander
quoi,
comme HeroCorp? Ça rapidement, est-ce qu'il y en a qui connaissent
Oui, mais j'ai jamais vu.
Ouais.
Oula,
voilà.
Bah, c'est pas ma faute. Hein.
Qu'est-ce que tu fais là?
Bon, je crois qu'il va falloir sortir.
Monsieur,
non, mais
sortir.
En plus, je crois que mon père a chopé les DVD, donc je peux la voir, techniquement.
Ça va monter, excusez-la. C'est bon, tu passes. Alors, bon, je rappelle quand même pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, donc HeroCorp est une série française créée en 2008 par Alban Lenoir, qui est comédien et cascadeur pour le cinéma. Et donc créée aussi par Simon Astier, comédien, scénariste et réalisateur. Mon demi-frère aussi d'Alexandre Astier. C'est une horreur. Alors, je vais raconter un peu l'histoire. Alors, c'est John, incarné par Simon Astier, qui arrive dans un village paumé, au beau milieu de la Cambrouse, en plein milieu de la France, on ne sait pas trop où c'est. Et il trouve que les habitants sont un peu bizarres. Et il se trouve que ce sont en fait d'anciens super-héros à la retraite et qu'ils ont besoin de John pour sauver le monde d'une menace, et bon, j'en dis pas plus. Et donc voilà, bon, c'est un super programme qu'il a. Et donc moi je regarde cette série depuis début décembre, Donc c'est pas très longtemps, ah je oui, sais qu'à l'épisode 2.
Ah oui, alors tu pouvais parler, tiens, de
ouais, c'est facile, hein.
Ouais. Ah, c'est facile de critiquer. Hein.
Non, je suis à l'épisode 2 de la saison 2. En comptant qu'il y a 13 épisodes par saison, ça me laisse encore du temps pour la finir.
Oh, mais ça va très vite, et... hein, HeroCorp. Hein.
Ouais.
Ça va très très vite.
Un peu comme Doctor Who.
Non, non, je sais, moi je me les avale par, par paquet de 2, donc, voire 3.
Dans la ah série. Oui, là, c'est
donc. Ouais. Et donc, cette série, pour le moment, n'a que 2 saisons, puisqu'elle s'est arrêtée en 2009. Et est-ce que vous savez pourquoi elle s'est arrêtée, par hasard ?
Manque d'argent ?
Ouais. Je connais.
Non, pas vraiment. C'est donc. En fait, c'est à cause de la chaîne qui l'a diffusée. Donc, à l'époque, c'était Comedy Plus. Ouais. Voilà, Comedy Plus, bon, maintenant qui s'appelle Comedy, une filiale de Canal Plus, payante. Et donc, elle a arrêté la série à cause des mauvaises audiences qu'elle générait. Et malgré qu'elle ait un certain succès sur le net. Et la chaîne évoque aussi du piratage. Bon, moi, je trouve ça un peu bidon comme excuse, mais bon, c'est eux qui voient. Donc, pendant 3 ans, les fans, ils ont fait quelque chose que je trouve d'assez inédit. Ils ont matraqué, ils ont fait un pinage, le mouvement pinage, donc le cri de guerre d'HeroCorp.
D'un des personnages, surtout, ouais.
Voilà. Donc, ils ont fait le mouvement pinage avec des pinage events un peu partout en France. C'est une page Facebook avec pas mal de monde.
Des espèces de réunions en ville, des mini-manifs.
Non, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et au final, l'effort des fans a payé puisque le 28 août 2012... J'ai même noté les dates. France Télévisions annonce qu'elle a repris les droits de la série HeroCorp et qu'une 3e saison a été commandée. Et une chose que Simon Astier a confirmée via Twitter le 17 décembre.
J'étais fou quand j'ai vu ça.
Ouais, c'est ah,
tout le monde était fou.
Moi, je regardais en live sur Dailymotion, je sais pas quoi, il y avait les présentations de France Télévisions. Et à un moment, je me rappelle, c'était en dessin animé, je vois HeroCorp, je suis c'était trop bon.
Ah ouais.
Non, moi, j'avais regardé pendant la nuit complète sur France 4.
Oui, bah c'est ça.
Ah oui,
c'était génial.
Ah, ils ont déjà diffusé un truc sur HeroCorp, là. En fait, ils ont déjà fait l'intégrale.
Oui.
Ils ont déjà sur diffusé une nuit entière HeroCorp, comme ils avaient fait avec Doctor Who, ils avaient fait une nuit
ouais.
entière.
Mmh.
Ah, d'accord. Je me doutais qu'ils allaient le faire, mais je savais pas que ça avait été.
Mais aussi, l'année dernière, il y avait Comedy qui avait prévu de refaire une nuit entière et selon les audiences, aurait vu pour une nouvelle saison ou pas. Mmh. Je sais pas ce que ça. Ouais.
Pipo.
Voilà, salaud, il regrette maintenant. Et je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Donc, le tournage a débuté il n'y a pas très longtemps, donc le 14 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours. Et franchement, j'avais pas participé à l'époque au pinage events, au mouvement pinage, mais c'est limite je le regrette parce que là, c'est une série que je trouve très très sympa. Il y a une histoire originale, le scénario et les dialogues sont plutôt bien écrits, c'est drôle, la musique est très bonne, j'adore la musique, donc c'est musique composée par Étienne Auger, les décors sont... Moi, je les trouve très beaux. Après, ça dépend. Je parle surtout de la première saison, parce que comme la deuxième saison, j'ai pas vu grand-chose.
Ouais.
Alors, les décors de la première saison.
Bah, en fait, HeroCorp, c'est pas le souci. Bah, en même temps, comme c'est une série qui est faite avec les moyens du bord, on peut pas leur reprocher. Mais c'est que c'est très huis clos, en fait. Tu regardes la première saison, c'est dans un village. La deuxième saison, c'est dans un.
Il y a quand même plus d'ouverture dans la deuxième, dans
pas
spoiler, ce qui se passe.
Mais... Ouais, il y a quand même un peu plus de. Bah, surtout avec Montréal, on voit plus de choses qui se passent à côté.
Ouais, déjà, Montréal, on le voit dans la fin de la première. Mais moi, je trouve ça limite pas gênant que ce soit limite fait main, quoi. Le manque de moyens.
Non, au contraire,
c'est pas gênant.
Je trouve que ça donne vraiment une identité.
Au contraire, ouais, surtout, ce qui m'avait épaté, c'est, sans vouloir trop spoiler, les costumes à la fin de la saison 1 des héros. Ils sont faits avec tout et n'importe quoi.
Ouais, encore, il y a un des personnages avec son costume orange, là, on dirait qu'il s'est gardé les antennes pour tricoter, tu sais, sur les épaules, ça m'a tué. Donc voilà, donc les décors sont très beaux. La majorité, ça a été tourné en Lozère, si vous voulez y faire un tour un jour, dans la belle région de Lozère.
Si on veut se perdre là-bas. Parce que justement, il avait choisi ce qui était bien paumé.
D'ailleurs, il n'arrivait pas à sortir du village dans la saison, tellement c'était paumé.
Perso, moi j'avais l'impression que c'est un village de Gaulois. En plus, avec Alban le Noir là, avec Klaus, là, qui faisait déjà bien mérovingien, bien Vercingétorix, là, je trouvais que c'était nickel. Et donc, le générique aussi, je le trouve très, très, très bien, avec des dessins à la comics, puisque les comics, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans la série.
Je sais pas si tu sais, mais la BD va sortir dans quelques jours.
Oui. C'est pas le mois prochain que ça sort? Oui.
Ouais, la BD
sort dans
quelques jours.
Ouais. Ah ouais, j'ai dû le voir, j'ai dû avoir passé comme ça, mais effectivement. Et moi j'aime pas les comics, mais pourtant j'aime beaucoup le générique, je le trouve très intelligent. Les dessins sont d'Olivier Perrou, enfin Perrou, je sais pas trop comment on dit. Alors, je la trouve très bien cette série, et par contre le seul bémol c'est dans le cast. C'est pas homogène. Autant il y a des acteurs qui jouent très bien, comme Simon Astier, Alban Lenoir, donc comme j'ai dit, qui joue Klaus, Sébastien Lalanne aussi qui fait double, on buse d'autres là qui jouent très bien. Mais
Captain Sport Extreme.
Allez, Arnaud de sa mère.
Ouais, Captain Sport Extreme, exactement. Dommage qu'on le voit que dans un épisode. Bon, enfin, peut-être qu'il viendra.
Je le verrai après.
Ouais. Et il y a des bons, mais il y a aussi du mauvais, voire très mauvais. L'exemple type, c'est Agnès Bourry qui joue le rôle de Marie, la tante de John.
Oui, je
trouve qu'elle joue vraiment très, ouais, très, très mal. C'est, on dirait une enfant de CP qui récite son texte sans savoir ce qu'elle
dit. En plus, on la voit pas mal dans les épisodes de la saison 1, ça gâche un peu le truc.
Je suis assez d'accord.
Ouais, voilà, ça c'est chiant. En plus, elle a un côté niais.
Je crois que Simon Assis lui devait de l'argent, c'est pour ça.
Ouais, ça doit être ça.
Non, elle a perdu un pari. Putain, merde.
Non, mais c'est une série qui est vraiment forte et je pense qu'il marquera une génération. Et c'est, ouais, pour ça, c'est bien qu'ils aient fait une troisième série, pardon. Je crois qu'ils vont même terminer, je crois, là-dessus.
Non, ils sont en train de la tourner. Il est encore de tournage.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont arrêter après saison 3, quoi. Ils vont faire un truc final, je crois, non?
Ah, je sais pas.
Je sais pas.
Mais là, je verrais bien un spin-off par contre de ça.
Ouais,
pourquoi pas? Ça serait sympa, mais ça pourrait être marrant.
Ouais, un préquel, ouais, ça serait bien.
Ça coûte très cher le préquel.
Ah, ouais, ça coûte très cher.
Mais non, mais c'est bien.
L'enfance de John.
Ouais, moi, je veux dire, je suis un gros fan comme tous ici, je pense. HeroCorp, c'est vraiment la série qu'on a toujours voulu imaginer française. C'est le rêve de beaucoup de choses. De beaucoup de personnes, il est entouré de bonnes personnes, voilà, c'est parfait. Ce qui, en plus, si on aime Kaamelott, on retrouve vachement de choses de Kaamelott dedans, dans le sens que
dans le sens dialogue, les dialogues.
Dans le sens dialogue. Et Simon, en fait, quand il joue le rôle de son frère.
Ah ouais, un petit peu, ouais.
Ouais. Genre tout le monde est débile.
Tout le monde est débile sauf lui.
Voilà, c'est un peu de ça. Ouais.
Ça, enfin, je suis en train de regarder Kaamelott, c'est exactement ça.
Oui,
et justement, c'est cool.
Et ils ont le même sens du dialogue, c'est-à-dire que le dialogue doit être rythmé comme une zik, et un peu à la Audiard. Ouais.
Non, mais pour des demi-frères, c'est vrai qu'ils se ressemblent déjà physiquement beaucoup, mais c'est vrai qu'après, ils ont les mêmes attitudes, les mêmes intonations de voix.
Bah, ils ont le même père, c'est celui qui joue le père dans
Kaamelott. Oui, ils ont le même père, mais...
Qui joue le chef du record.
Et
le chef de l'agence.
Cette série, un peu comme l'a fait Les Visiteurs du Futur, te permet d'imaginer que n'importe qui a les moyens et le talent, enfin qui a les moyens, qui a le talent et pas forcément les moyens.
Et quelques moyens.
Et quelques amis, et peut imaginer monter une série.
Ouais, bah après ça coûte quand même. Enfin, tu vois, tu peux pas trop comparer parce que quand même, HeroCorp, ils ont quand même une certaine. Ils ont eu des thunes, tu vois.
Oui, non, c'est pas le même niveau, je suis d'accord.
Les Visiteurs du Futur,
la première saison, ils en ont pas eu.
Ah oui, je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des moyens différents qui te montrent qu'il est possible de faire de la série, même en France, tu vois.
Ah, ça, c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair.
Ouais, mais des bonnes, surtout. Voilà. Parce que pour moi, HeroCorp, pour le moment, c'est la meilleure série française que j'ai vue.
T'as pas vu Les Revenants, alors?
Les Revenants est très bien, ouais.
Non, j'ai pas encore.
Mais c'est pas non plus une série d'action qui plaira à tout le monde.
Ah non, c'est sûr, mais par contre, c'est une des plus abouties. C'est une des plus abouties. Hein.
Ouais.
Moi, je l'ai vu.
Non, mais c'est vrai. Ah, mais ça donnait envie. Non, je reconnais, c'est vrai qu'elle donnait envie. Mais bon, je vais peut-être attendre les débuts.
L'histoire est complètement folle. Les acteurs sont super. Y a rien à dire.
Non, mais c'est. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs.
Désolé,
on t'a coupé. Avec Randall, on t'a.
Non, bon, c'est pas grave, c'est perdu, c'est perdu et ça reviendra.
C'est perdu pour la France.
Voilà, c'est perdu pour la France. Bon, ben voilà, sinon, je conseille vraiment pour ceux qui ne connaissent pas de la regarder. C'est un petit bijou au niveau série française, je trouve. Et y aller, vous vous regardez où vous voulez, sur France 4 s'ils décident de le repasser plutôt, les DVD, sur Internet, tous les moyens que vous voulez, mais regardez là, parce que franchement, ça vaut le détour, moi, je pense.
Ouais, je confirme.
Eh, c'est le genre de projet que t'as envie de soutenir, que même si tu les as vus sur Internet, t'as envie d'acheter les DVD.
Oui. Ah, c'est clair.
Moi, ouais, j'ai hésité à les prendre l'autre fois, mais j'ai
reposé. Mais tu vas le faire.
Oui, tu le feras.
Ouais, je crois que je vais le faire.
Très bien, et ben plus de questions.
Nickel.
Alors, relancez le jingle et on se retrouve pour la conclusion. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Non, vous êtes censé faire. Oh non.
Oh non.
Je jouais tellement bien. Alors, merci à tous d'être venus en tout cas. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet ? On va commencer par ZQSD rapidement.
Donc sur Twitter, ZQSD, ZEDKUESDE, et sur lebidule.org. Ouais.
D'accord. Randall Flag, où est-ce qu'on te retrouve ?
Sur Gribouillon avec un S.fr. Sur Twitter, on peut me retrouver sur Randall Flag, 2L, 2G, et un underscore derrière.
Et un underscore, c'est très important.
Et aussi des articles sur lebidule.org.
Très bien. Musica, à ton tour.
Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec @musicadumn.
Voilà.
Et sur. Ouais, voilà, si vous voulez. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur le site des plumes asthmatiques, donc lesplumesasthmatiques.net/fr.
D'accord, très bien. Léopold.
Et ben moi, vous pouvez me retrouver dans le fabuleux podcast, je suis fatigué. Season 1, où je fais une chronique d'humour, enfin j'essaye, et dans d'autres podcasts de No Watch. Et puis là, j'ai créé un nouveau podcast dans la boîte à gants. À écouter toutes les deux semaines.
Prometteur d'ailleurs.
C'est sympa, ouais. Très sympa.
Bah, merci.
J'irai écouter.
Sur SoundCloud, vous tapez
dans
la boîte à gants.
Mais je mettrai de toute façon tous les liens sur.
Merci beaucoup de l'invitation.
Oh, de rien, ça m'a fait plaisir. Et donc, quant à l'émission, vous pouvez la retrouver sur le site leséclaireurspodcast.blogspot.com, sur le flux RSS, sur iTunes et sur le Twitter @les_éclaireurs. Et donc, on se retrouve pour un prochain épisode un peu spécial cette fois-ci, puisqu'il sera dans une cadre d'une soirée spéciale en association avec le podcast Queen Novi. Je les connais, eux, mais je sais pas d'où. Et donc, ce sera la semaine prochaine. Et alors, je peux pas trop en dire, mais je peux au moins vous donner un petit indice pour ceux qui comprendront. Ce sera une soirée full sous-sous. Voilà.
Et donc. Qu'est-ce que ça peut bien être.
Ah oui, moi je me demande. Donc, merci à tous de nous avoir suivis.
Ciao,
salut.
Au revoir.
Salut.
Ciao. Ciao.
Bon, c'est parti. C'est pas ça. Pareil, mais c'est le dernier truc joué, donc en même temps.